un privilège d'être de nouveau parmi vous à l'occasion de cette montée express et rapide. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Romains chapitre 6. Et je me hasarde, je ne pense pas que c'est dans nos habitudes à nous, baptistes, de ne pas faire de publicité, mais il y a une église sœur à Perpignan qui a eu l'idée de faire un livre de recettes de cuisine pour financer, pour aider à financer par les chrétiens qui s'intéressent l'achat d'un lieu de culte car ils vont être bientôt expulsés de local où ils sont locataires depuis 30 ans. Alors, certains qui étaient, enfin, un de vos frères ici a été à Perpignan pendant plusieurs années. Je vous montre le livre, si ça vous intéresse, parlez-moi après, mais c'est pas pour ça que je suis venu. On est venu pour avoir une recette de la parole par rapport à la vie sainte. La question que l'on veut se poser ce soir, à laquelle on peut répondre, à laquelle Dieu veut nous répondre, c'est vivre saintement, est-ce possible? Ça m'a été rappelé encore hier, nous faisons un travail de formation avec 5 jeunes et nous parlions de cette question de vivre saintement et un des jeunes commence à poser des questions et puis des larmes lui sont montées aux yeux et sont sorties librement. On voit qu'il était très affecté et il m'a dit il y a 10 ans, j'ai posé la question à un responsable dans un centre de vacances chrétien, fondamentaliste. Est-ce qu'on peut vraiment vivre saintement? Et le pasteur, peut-être sans vraiment comprendre ce qu'il lui disait, ben, il y a sans doute des péchés dont le Seigneur ne nous délivrera pas, des péchés que l'on doit traîner toute sa vie. Et cet homme pensait que les charges dans la chair de l'apôtre Paul étaient un péché dont il n'arrivait pas à se défaire, et qui le gardait dans un état de faiblesse. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je ne pense pas que ce soit l'interprétation correcte de l'écharpe dans la chair, dans une faiblesse physique. Et alors, on a cité quelques passages, comme Paul qui dit « Je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. J'ai été crucifié avec Christ, si je vis aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. » Et il a combattu le bon combat, il a gardé la foi, le Seigneur lui réserve une couronne. Ce passage qui dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même aussi de Jésus-Christ. L'apôtre Paul avouait qu'il n'était pas parfait. Mais son enseignement, c'était que nous pouvons vivre saintement. Le Seigneur nous donne tout ce qu'il nous faut pour vivre saintement. Mais quelquefois, nous ne comprenons pas cette vie sainte, et nous pensons et nous arrivons à la conclusion en voyant notre propre vie que cela n'est guère possible. On entend parler de loin en loin d'héros de la foi des autres siècles qui avaient une vie exemplaire. On dit peut-être à l'époque c'était plus facile, mais aujourd'hui il est impossible avec tout ce qui se passe autour de nous de vivre saintement. Mes frères et sœurs, dans le premier siècle de l'ère chrétienne, l'Empire romain était en état de délabrement moral que même notre société n'a pas encore atteint. Et sur le détritus moral de l'Empire romain s'est élevée une église pure, l'église de Jésus-Christ. Et c'était parce que Jésus-Christ vivait en elle. Et nous lisons donc en Romains 6 la recette pour vivre saintement. La première question que nous pourrions nous poser, et peut-être vous l'êtes-vous posée, pourquoi les chrétiens, pourquoi beaucoup de chrétiens, on va dire, ne recherchent-ils pas davantage une vie sainte? Comment se fait-il que tant d'enfants de Dieu se contentent de l'à peu près? Ils ne cherchent pas à vivre une vie plus pure, plus sainte, plus semblable à Jésus-Christ. Dans le texte devant nous, il y a au moins 5 indices. Par exemple, en Romains chapitre 5, verset 20, la loi est intervenue pour que l'offense abonda, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a des gens qui ont un esprit un peu tordu. D'ailleurs, ils l'ont dit ici. parce que la grâce a surabondé pour le salut. On a reçu le pardon de Dieu sans aucun effort de notre part. On en arrive à la conclusion que vivre la vie chrétienne ne réclame aucun effort de notre part. Il y a des gens, je connais des chrétiens, qui ne veulent pas la sanctification, parce qu'ils disent que si Dieu veut me délivrer de tel péché, il me délivrera lui-même. Je n'ai pas à travailler là-dessus. Tout vient gratuitement par Dieu, comme mon salut sans effort, la sanctification sans effort. Dans le verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Certains chrétiens pourraient dire, oui, moi je l'ignorais. C'est par ignorance qu'il y a des gens qui ignorent, ils sont sauvés, ils ignorent à quel point ils sont identifiés à Jésus-Christ. Ils savent que Jésus-Christ les a sauvés, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont identifiés à Jésus-Christ intimement, par la foi. Une troisième raison pourquoi les gens ne recherchent pas une vie plus sainte, c'est très facile, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'était un scénariste, un homme de théâtre anglais qui avait dit cette fameuse phrase « Je résiste à tout sauf à la tentation ». Vous l'avez peut-être entendu. Mais le péché, ben, j'ai des convoitises, alors je vais devoir sombrer puisque j'ai des convoitises. Il faut bien que je les satisfasse. Et dans notre monde aujourd'hui, c'est bien la pensée du siècle. Si vous avez des convoitises, mais il faut les satisfaire, sinon vous allez faire des dépressions et des névroses. C'est une pensée du diable. Elle est très répandue. Oui, nous avons des convoitises et nous pensons que, eh bien, il faut les satisfaire. Donc, on ne va pas rechercher la sainteté, peut-être. Regardez verset 15 du même chapitre. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Apparemment, quelques-uns le pensaient puisque l'apôtre Paul le mentionne. Il y a des gens qui pense que la vie chrétienne se vit selon les lois et les règles. Il vous demande d'ailleurs, donnez-moi des lois et des règles pour être un bon chrétien. Un peu comme un code civil. S'ils arrivent à peu près à tenir ces lois et ces règles, du moins extérieurement, ils disent, regarde, je suis un bon chrétien, je fais tout ce qu'on me demande. Les pharisiens en faisaient autant ou plus. Mais la vie sainte, la vie chrétienne sainte et pure, c'est une vie d'attachement à Jésus-Christ. C'est beaucoup plus que de suivre un code de comportement. C'est une attitude d'amour envers Jésus-Christ. C'est ça qui est la force même de la vie sainte. Verset 16, dernière raison pourquoi beaucoup de chrétiens ne recherchent pas une vie sainte. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Et donne les deux possibilités, soit du péché, soit de la justice. Et ça, c'est peut-être la raison la plus répandue dans nos milieux conservateurs et bien bibliques. Il y a des chrétiens qui veulent vivre une vie sainte et pure, mais qui ne prennent pas la décision de servir Dieu. Ils ne s'investissent pas, ils ne témoignent jamais, ils ne prient que très peu. Ils fréquentent les réunions, ils lisent un peu la Bible, ils ne s'engagent jamais dans leur église locale, ils ne s'engagent jamais dans le témoignage, ils ne prient jamais pour leurs voisins. Ils vivent une vie morale, mais sans la puissance de Dieu. Et ces chrétiens-là, dans la mesure où leurs membres ne sont pas livrés à Dieu pour le service, leurs membres vont trouver un autre maître à servir. Par quelques raisons, et qu'on trouve ici dans notre texte, Romains chapitre 6, ignorance, négligence, une fausse idée. Alors, nous allons reprendre maintenant ce texte de Romains chapitre 6, lisons les 10 premiers versets. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Dans ces versets, nous avons le fondement inébranlable d'une vie sainte. Si on va vivre une vie sainte, ça va être à cause de ces versets. Nous remarquons premièrement, verset 3, nous avons été baptisés dans la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Christ est mort pour nos péchés, nous nous sommes identifiés à lui. En le recevant comme sauveur, on s'identifie à tout jamais avec celui qui a réglé le problème de notre péché. Le problème de votre péché et le mien est réglé par la mort de Jésus-Christ. Verset 23 de chapitre 3 de vie, du verset chapitre 6, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, nous sommes identifiés à Christ dans sa mort. Le problème est réglé. Dans le verset 4, nous voyons que Jésus ressuscite des morts et nous sommes identifiés à lui dans sa résurrection. Quand Jésus est ressuscité, il se montre victorieux sur le péché, victorieux sur la mort. Et en étant identifié à lui, nous sommes également victorieux sur le péché dans notre vie. C'est notre statut légal. Dieu nous considère comme victorieux. Il nous a donné la victoire par identification à lui. Verset 6 nous montre que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Autrement dit, notre nature pécheresse, la source de tous vos péchés et de tous les miens, cette nature pécheresse a été crucifiée avec Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'elle ne bouge plus, ça veut dire que son sort éternel est scellé. Nous un jour, nous serons totalement débarrassés de cette nature pécheresse. Ça sera peut-être une des plus grandes joies du paradis que de ne plus jamais pécher, ne plus jamais avoir envie de pécher. Quelle libération ce sera. Verset 7, nous voyons celui qui est mort est libre du péché. Donc, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous en avons été libérés. Dans les versets 8 et 10, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est au futur. Cela veut dire que nous vivrons pour l'éternité loin du péché. Pour certains d'entre nous, on commence à vieillir. Moi, je commence à vieillir, je le sens. C'est pas très loin maintenant, cette vie éternelle, cette libération du péché. Si vous regardez bien tous les versets, tous les textes qu'on vient de regarder, ces phrases qu'on a relevées, vous remarquerez que tous les verbes sont au passé composé. Nous avons été. Le passé composé, comme chacun sait, signifie une action qui a été faite une fois pour toutes, qui est terminée. Et c'est valable pour toujours. Pour ceux qui sont mariés, ils disent, je me suis marié ce jour-là, et le résultat, je vis dans un état de mariage. C'était fait une fois, et ça engendre un nouvel état civil. Et de la même manière, j'ai été identifié à Jésus-Christ à ma conversion, et ça a engendré pour moi une nouvelle identité, un nouveau statut, une nouvelle manière d'être. Il y a l'homme nouveau, une nouvelle nature qui est entrée en moi. Ce jour-là, c'est fait une fois pour toutes. Le passé composé exprime les choses qui ont été faites. Toutes ces actions qui ont été faites par Dieu. Et si Dieu l'a fait, c'est que c'est fait pour toujours. Si c'est Dieu en Christ qui est mort et ressuscité, et nous avec lui, c'est fait pour toujours. Donc aujourd'hui, nous sommes sous la grâce de Dieu, et nous ne sommes plus sous la loi de Dieu. Dans le verset 14, il dit, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Il prend pas mal de temps au chapitre 7 pour expliquer que la loi, c'est pas la loi qui nous rend pécheurs, mes amis. La loi est excellente, elle est toujours bonne. La loi est indestructible. La loi, c'est les exigences de Dieu. Elle est parfaite. Seulement, je ne le suis pas. Et la loi, quand Dieu me donne la loi, en même temps que je dis cette loi est excellente, ce serait bien que tout le monde l'observe. En même temps, en moi, il y a une rébellion qui se lève et dit, je ne veux pas, on me l'impose, je ne veux pas. La rébellion. Et le Seigneur dit, en Romains 7, est-ce que tu vois ta réaction de rébellion face à cette loi? Oui, mais c'est ça le péché. Cette rébellion, c'est ça la nature pécheresse. La loi révèle le péché. Ce qui a été aboli pour nous, ce n'est pas la loi, c'est la condamnation de la loi. Et ce, nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Nous sommes sous le régime de la grâce. Christ nous lie directement à lui-même. Directement à lui-même. Quand on est un petit garçon, on apprend à obéir à papa et maman. Et si on se montre un peu rebelle, papa et maman disent, attention, si tu me désobéissant, tu auras une correction. Et l'enfant, s'il obéit, c'est en partie parce qu'il veut éviter la correction. Mais quand il mûrit et qu'il devient un homme et qu'il se marie, et sa femme dit, est-ce que tu pourrais sortir la poubelle? On n'en est plus à, si tu ne la sors pas, tu auras une correction. S'il fallait insister et donner une motivation à ce monsieur, on dirait, si tu m'aimes, tu sortiras la poubelle. Et bien sûr, il va se lever immédiatement pour la sortir parce qu'il aime sa femme. Il a changé de régime. Il fait la même chose, mais pas pour la même raison. Et vivre par la grâce, c'est vivre saintement, mais pas pour la même raison. On vit saintement, on assure à la différence parce qu'on aime le Seigneur. Et pas parce qu'il y a une loi qui nous menace. Tout ça, c'est le fondement inébranlable. Toute vie sainte doit être basée sur ce fondement-là. Ce que Christ a fait pour nous est la nouvelle relation que nous avons avec lui. Par l'amour, par la foi, on est lié directement à Jésus-Christ. Maintenant, regardez deux ou trois petites phrases. Dans le verset 4, il y en a une. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de paix du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Regardez bien, nous marchions. Regardez verset 6. Afin que le corps du péché fût détruit, ou soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Plutôt, le corps du péché est détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Puis dans le verset, donc, c'est deux versets. Dans le verset 4, il dit des verbes qui sont, à quel mode? Le mode subjonctif. Le mode subjonctif, c'est, ce sont des souhaits, c'est des possibilités, ce sont des options. Des options qui s'offrent à nous. Le subjonctif, ce n'est pas l'indicatif, ce n'est pas ce qui est, mais c'est ce qui est possible, c'est ce qui est souhaitable. Quand nous prions le Seigneur, Nous ne disons pas, comme certains évangéliques, « Seigneur, je te prie pour ma sœur, tu la guéris. » Non, nous ne savons pas si le Seigneur la guérit. Nous te prions que c'est quelle est ta volonté de la guérir. Nous croyons que tu peux la guérir. Nous te demandons de la guérir. Puisses-tu la guérir? Tout cela, c'est les souhaits, c'est la supplication, mais ce n'est pas, nous annonçons à Dieu ce qu'il fait. Et de la même manière, le Seigneur ne dit pas, puisque je suis mort et ressuscité, tu marches désormais en nouveauté de vie. Maintenant, tu n'es plus esclave du péché. Il dit afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais ça veut dire quoi? Vous dites, pourquoi cette leçon de grammaire? C'est simplement, si Romains 6 est vrai, et si ces verbes ne sont pas au subjonctif, il ne devrait plus avoir aucun chrétien qui pêche. Si la nature pécheresse est détruite et que nous ne sommes vraiment plus esclaves du péché, que nous sommes totalement libérés du péché, pourquoi continuons-nous à pécher? Vous dites, bon, moi je pêche plus beaucoup, donc ça va. Oui, mais que dire les croyants qui pêchent beaucoup plus que vous? Est-ce que ce sont vraiment des gens sauvés? Est-ce qu'ils sont identifiés à Christ? Est-ce que Christ est mort pour lui? Pourquoi? C'est parce que cette option n'est pas une obligation. Il est possible pour un enfant de Dieu d'être en rébellion contre Dieu, malheureusement. Il est possible pour chacun de nous désobéissant à Dieu. Quand nous étions enfants, je pense que la plupart d'entre nous, si on nous avait demandé à l'âge de 10 ans, est-ce que tu aimes tes parents? Oui, j'aime mes parents. Aucune hésitation. Est-ce que tu es toujours obéissant? Non. Alors quoi? C'est quoi? Donc tu n'aimes pas? Si, j'aime. Mais je ne saisis pas toujours l'option qui m'est donnée d'être obéissant. Parfois, je choisis l'option contraire. C'est malheureux, mais je le fais. Mais en tous les cas, en Jésus-Christ, nous avons l'option de vivre saintement. Un chrétien peut pécher malheureusement, mais n'est pas obligé de vivre loin de la sainteté. Alors les chrétiens qui disent, vous savez, je suis fait comme ça, que voulez-vous? Ça ne marche pas, ça. Bien sûr, on est fait comme ça. Bien sûr, on a une nature pécheresse. Évidemment, chacun de nous a des faiblesses, certains péchés contre lesquels il faut lutter toute notre vie, mais on n'a aucune obligation d'y être asservi. Gloire à Dieu! Mais bon, en Jésus-Christ, passé composé, je suis libéré du péché, il a payé pour moi, la chose est faite pour toujours, ça c'est le fondement de ma vie. Dans ces versets, à cause de ce que Christ a fait en moi, maintenant j'ai l'option de ne pas vivre dans le péché. J'ai l'option d'être libre de l'esclavage du péché. J'ai l'option, la possibilité, mais donnée, de vivre saintement. Mais comment est-ce que je peux passer de cette option à la réalité? Comment est-ce que je peux exercer mon option de ne pas être esclave du péché? Comment peut-on faire? Regardez s'il vous plaît les versets 11, 12. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Avez-vous remarqué maintenant, vous êtes un peu au courant qu'il faut regarder les verbes. Et là, tous les verbes sont différents des deux autres. Ce n'est pas le subjonctif, ce n'est pas le passé composé, c'est l'impératif. Ce sont les ordres. Alors, pourquoi Dieu nous donne des ordres? Mais parce qu'on a besoin de les entendre. Le Seigneur nous donne beaucoup d'ordres dans le Nouveau Testament. Si vous soulignez chaque fois que Dieu donne un ordre, que le verbe est impératif, vous aurez bien marqué votre Nouveau Testament. Surtout dans les Épîtres, il y a énormément de commandements. Généralement, l'apôtre Paul, Éphésiens notamment, dans une épître de 6 chapitres, il vous donnera 3 chapitres de doctrine de ce que Christ a fait et 3 chapitres de pratique, comment il faut vivre ça dans le quotidien. Et bien toute la deuxième moitié, il y a des verbes à l'impératif partout. Vous dites, mais oui, mais ça c'est des ordres, mais il faudrait que j'ai envie d'obéir à ces ordres. Non. Quand on donne un ordre à quelqu'un, on n'est pas obligé de le motiver à faire cet ordre. Si vous dites à votre enfant, mets la table, on va bientôt manger, c'est ton tour de mettre, mets la table. S'il faut lui tenir la main, écoute, excuse-moi d'avoir employé ce nom, je ne voulais pas dire, mets la table comme ça, j'aurais voulu dire, si tu veux bien, écoute, ça me ferait plaisir à ton père et moi que tu mettes la table, veux-tu, enfin, si ça ne te dérange pas, non. Votre enfant dit, ah, ça va mieux, parce que là, je me sentais un peu agressé dans ma personnalité par le ton péremptoire que tu as utilisé. Bon, à présent, je consens à mettre la table pour cette fois-ci. Là, vous avez tout perdu. Ça, c'est plus un ordre. C'est une négociation. Le Seigneur ne s'embarrasse pas de ces choses-là. Nous lui appartenons. Il a le droit de nous donner des ordres. Et là, l'autre raison pour laquelle il donne des ordres, c'est parce que ces ordres, c'est la seule manière d'y arriver. La seule manière de vivre saintement, c'est de suivre ces trois ordres. Que sont-ils? D'abord, regardez-vous. Alors là, dans le grec, c'est un terme de comptabilité. Vous savez, vous avez vos colonnes devant vous, et puis vous dites, ces 1000 euros là, je ne vais pas les mettre là, je vais les mettre dans cette colonne. Tac. Et vous les changez, vous mettez moins 1000 ici, plus 1000 ici, et vous les affectez à autre chose. Et Dieu dit, quand vous êtes en présence du péché, comptabilisez-vous comme étant mort. Ajoutez un cadavre de plus dans le jardin des réagiles. Et ce cadavre, c'est vous-même. Faites le mort devant le péché. Regarde, il n'a pas dit vous êtes mort. Ça, il l'a dit au début. Il a dit positionnellement en Christ, vous êtes mort au péché. Mais maintenant, il faut vivre ça dans le quotidien. Et quand la tentation vient, tu fais le mort, tu fais. Ou bien, je ne vois pas la tentation. Mais oui, mais elle est ici. Oui, mais je ne veux pas la voir. Je veux regarder par ici. On a envie de se mettre en colère. Non, 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 je ne me mets pas en colère. Tu en as envie. Oui, mais je considère que je ne me mets pas en colère. Je ne veux pas le faire. Insensible. Soyez insensible au péché. Vous dites, mais je ne suis pas insensible. Évidemment, c'est pour ça que c'est un ordre. Soyez insensible. Donc c'est une attitude à développer. Peut-être qu'on va dire, mais alors on va faire le comédien, on va manifester une attitude qui n'est pas la réalité. C'est pas grave, puisque Jésus-Christ vous le demande. Il dit, tu es tenté, tu fais le mort, tu mets insensible, tu te considères insensible, tu fais en sorte que tu détournes ta pensée de ce péché-là. Ce n'est pas, oh oui, je regarde ce péché, j'examine cette convoitise. Non, ça ne m'intéresse pas. Menteur, ça vous intéresse, ça m'intéresse. Il dit, passez votre chemin, ne regardez pas. Continuez votre route, vous avez autre chose à faire que ça. Verset 12, pour enfoncer le clou en quelque sorte, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Je suis heureux de savoir qu'il y a, Dieu reconnaît que nous avons des convoitises. Parce que si l'Esprit Saint ici n'avait pas inspiré ses paroles, le diable pourrait facilement venir lui dire, ah, t'as vu la convoitise que tu as eue? Oui. C'était bien ou mal, hein? C'était très mauvais. Ah! Tu ne devrais pas avoir les convoitises. Les chrétiens, ça n'a pas de convoitises. Les vrais chrétiens n'ont pas de convoitises. Et vous souriez, c'est vrai, peut-être que tu ne suis pas vrai chrétien. Au moins, dans la parole, il écrit à des chrétiens nés de nouveau, et il dit, n'obéissez pas aux convoitises. Vous aurez des convoitises. N'obéissez pas. Ce n'est pas se mentir à soi-même. Ce n'est pas la peine de dire, non, je n'ai plus de convoitise. Allons donc. Vous avez des convoitises. Jamais, mais on n'est pas obligé d'y obéir. Quelqu'un qui fume la cigarette, puis qui s'arrête de fumer, Quand est-ce qu'on considère qu'il s'est arrêté de fumer? Quand il a fini sa dernière cigarette ou quand il n'a plus envie d'en fumer? Quand est-ce qu'il s'est arrêté? Quand il a fumé sa dernière cigarette. Parce qu'il y a des gens qui ont cessé de fumer et jusqu'à la fin de leur vie, ils en ont envie. Mais dans la mesure qu'ils ne le font plus, ils sont libérés de l'esclavage du tabagisme, n'est-ce pas? Il y a plein de péchés dans lesquels nous pourrions tomber, mais on n'obéit pas à la convoitise, eh bien, on passe outre ce péché, on ne commet pas ce péché-là. Heureusement! Heureusement! Et nous appliquons ce principe à plein de choses. Il y a des gens, parfois, dans la voiture, on les voit, ils sont, ou si je pouvais tuer celui-là, heureusement qu'ils ne passent pas l'acte. Ils n'obéissent pas. Heureusement. Le Seigneur nous demande quelque chose de très simple, mais c'est une affaire de volonté de ne pas obéir à la convoitise du péché. Et verset 13, il dit, donnez vos membres à Dieu pour le servir. Là, on l'a vu tout à l'heure. Mais si on ne n'agit pas pour le Seigneur, si on ne se met pas au service du Seigneur, on aura beaucoup de temps à tuer et les gens qui n'ont rien à faire, eh bien, ils ne font rien de bien. L'oisiveté, c'est quelque chose de terrible dans la vie chrétienne. C'est très mauvais pour n'importe quel être humain d'être oisif. On dit bien que la plus grande partie des criminels, ce sont des gens qui ont beaucoup de santé, qui ont beaucoup de force et qui n'ont aucune responsabilité, ils n'ont aucun travail, eh bien, ils en trouvent du travail, mais pas du bon. L'oisiveté, la négligence, vont directement, nous conduisent directement à la défaite. Chaque enfant de Dieu, si on pouvait le dire à chaque enfant de Dieu, peux-tu écrire sur une feuille de papier exactement, précisément, ce que tu fais pour Dieu au cours d'un mois? Combien d'heures ça fait? De combien de temps libre disposes-tu sur un mois? Quel pourcentage passes-tu à être occupé aux choses de Dieu? Vous savez, il y en a beaucoup de bons chrétiens, à nos yeux, qui ne font rien de mauvais, mais, enfin, du moins, qu'on ne peut pas voir, mais qui ne font pas grand-chose non plus pour Dieu. La chute n'est pas loin. Il dit, vos membres vont servir quelque chose, obligatoirement. Ils ne vont pas juste être là à ne rien faire. Ils vont être au service de quelqu'un. S'ils ne sont pas au service de Dieu, ils sont au service du diable. Il faut choisir. Mais vous allez servir quelqu'un. Choisissez qui vous allez servir. Donnez vos membres à Dieu. Tout le temps que ma main distribue un prospectus, un traité ou une Bible, ma main ne peut pas faire de mauvaises choses. Chaque fois que ma bouche s'ouvre pour témoigner, ma bouche ne s'ouvre pas pour dire des gros mots ou critiquer les autres. Nos membres sont à Dieu, les moyens de vivre saintement. On ne peut pas vivre saintement si on ne comprend pas l'enseignement de ce chapitre. On peut s'entourer de règles, de conduites, on peut éviter les pires excès. Mais on ne peut pas connaître la vie sainte si on ne s'identifie pas, à Christ, si on n'a pas recours à sa puissance. Ne pensez pas dans le verset 11, 12 et 13 que c'est une petite recette. Bon, ça y est, on m'a fait la leçon ce soir, je fais le mort devant le péché, je n'obéis pas aux convoitises, bon, c'est facile, c'est bon, je connais la vie sainte. Non, attendez que la convoitise revienne, vous allez voir si vous êtes si fort. On va crier vers Dieu, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas tomber, je ne veux pas tomber avec ton aide. Seigneur, je me tourne vers toi. Et puis vous connaissez la délivrance, c'est la première fois que j'ai résisté à cette tentation. Alléluia, je croyais que jamais j'y arriverais. Et avec l'aide de Dieu, mais vous avez pris la décision. Et Dieu a fourni la puissance. Le Seigneur ne fournit pas la puissance pour nous de faire les choses que nous n'avons pas décidé de faire. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi ta puissance et je déciderai de vivre pour toi. Le Seigneur dit non, décide de vivre pour moi et puis je te donnerai ma puissance. Ce n'est pas la même chose. La puissance est là, mais elle n'intervient que lorsque nous avons décidé de faire ce que Dieu veut. Et quand on a décidé, la puissance de Dieu est automatiquement à notre disposition pour la victoire. Dans Romains 7, je termine, vous avez le chrétien dans la défaite. Vous connaissez bien Romains 7 ici et Romains 8, je pense. Il dit, j'ai la volonté de faire le bien. Il aime faire le bien. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Il aime les choses de Dieu. Il dit, Jésus-Christ est mon Seigneur. Je rends grâce à Jésus-Christ. Mais en Romains 7, le chrétien dit, je ne fais pas ce que je dois, je fais ce que je ne veux pas, et moi, je ne sais pas comment je, moi, fais. Il parle de ses capacités, il parle de ses efforts. Et à la fin, verset 25 du chapitre 7, regardez. Il dit ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. N'avez-vous pas l'impression? J'ai dit, bon, je vais aimer les choses de Dieu, mais malheureusement, je n'y arriverai pas. Je ne pense pas que je vais y arriver. Et pourtant, j'aime le Seigneur, mais bon, la vie sainte, c'est sûrement pas pour moi. Il ne vit pas dans la sainteté. Il veut vivre dans la sainteté, mais ne sait pas comment y arriver. Il se sent complètement, complètement insuffisant. Romains 8, ça change. Le chrétien en Romains 8, c'est le même chrétien, mais qui a compris des vérités. Qu'est-ce qu'il a compris? Verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il dit, Jésus-Christ m'a donné la victoire sur le péché. Je sais que je peux être victorieux. Déjà, c'est différent. Il sait qu'il peut être victorieux. Frères et sœurs, si nous ne savons pas qu'on peut être victorieux, on ne sera pas victorieux. Il faut que nous sachions que c'est possible, que le Seigneur nous a donné ce qu'il faut pour cette victoire. Versets 3 et 4, il comprend que la loi de Dieu ne peut pas le rendre triomphant. Il comprend que la vie de victoire, c'est si Christ vit sa vie en lui, il aura la victoire. Mais si lui, il vit selon une certaine loi, il n'aura pas la victoire. Ça, il le comprend dans les versets 3 et 4. Alors, verset 5, c'est une clé. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Pendant longtemps, je lisais ça à l'envers. Je lisais, ceux qui s'affectionnent aux choses de Dieu, vivent selon les choses de Dieu. Et ceux qui aiment les choses du monde, vivent selon les choses du monde. Et c'est pas ce qu'il dit, le contraire. Autrement, il dit, tu peux ne pas trop aimer les choses de Dieu. Mais si tu décides de vivre selon les choses de Dieu, tu finiras par t'affectionner à elles. Et ça, c'est libérateur. Le chrétien qui dit le matin, j'ai pas tellement envie de lire ma Bible. Alors, comme j'ai compris le verset 5, il faut que j'attende parce qu'il faut que j'ai de l'affection pour vivre les choses de Dieu. J'attends que j'ai envie de lire ma Bible. Et comme ça, ça sera sincère. C'est tout le contraire. Quand on n'a pas envie de lire la Bible, c'est là que je vais lire ma Bible. Je devrais de toute façon, et d'autant plus parce que je n'avais pas vraiment envie. Je vais la lire. Seigneur, je n'ai pas envie de la lire, mais je vais la lire parce que je t'aime. Vous ne sentez aucun sentiment, aucune émotion pour Dieu. Votre cœur est sec. Tout le monde sait de quoi je parle. Hein. Vous ouvrez la parole, Seigneur, donne-moi quelque chose de ta parole, réchauffe mon cœur. Déjà, ça va un peu mieux. Et on lit et Dieu vous parle. Et vous finissez, qu'est-ce que j'aime lire la Bible? Ah bon? Tu n'avais pas il y a une heure à lire la Bible? Oui, mais j'ai vécu selon l'esprit. Et alors, je me suis affectionné aux choses de l'esprit. Il y a des musiques que je trouve vraiment horribles. Il y a des gens qui aiment ces musiques-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils en ont tellement écouté qu'ils ont développé un goût pour cette musique-là. Il y a des gens qui aiment des drogues et des choses, des substances les plus amères. Mais comment ça arrive-t-il à aimer des choses pareilles? Parce qu'ils en ont tellement pris quand ils n'aimaient pas qu'ils ont développé un goût pour ces choses-là. Eh bien, combien plus forte raison les choses ineffables, les choses délicieuses, les choses nourrissantes de notre Seigneur. La sainteté qui nous paraît tellement inaccessible est à notre portée. Et le Seigneur dit, j'ai fait pour toi ce que tu ne pouvais pas faire pour toi-même. Je te donne une option, l'option merveilleuse de vivre dans la sainteté. Est-ce que tu veux exercer cette option? Est-ce que tu veux vivre dans la sainteté? Alors, fais ce que je te dis, en demandant mon aide. Et tu verras que tu vas vivre dans la sainteté, que tu vas aimer vivre dans la sainteté. C'est très simple. Le Seigneur dit, j'ai fait pour toi et je ferai toujours pour toi ce que tu ne peux pas faire. Mais je ne ferai rien pour toi que toi tu peux faire. Je ne déciderai pas que tu vivras saintement. C'est à toi de décider. Et si tu le décides, même si tu tombes plusieurs fois, je te relèverai, je serai là. Ce sera par ma puissance que tu le feras. Et c'est possible. Vivre saintement, c'est possible. Notre Dieu et Père, nous te prions que tu nous aides à vivre et à aimer cette vie de sainteté. Peut-être, Seigneur, ces frères et sœurs ici vivent dans la sainteté. Je sais que beaucoup d'entre eux vivent dans la sainteté. Mais nous pouvons toujours progresser davantage dans cette sainteté, dans cette obéissance, dans cette joie, dans cette liberté, dans cette discipline de la sainteté. Merci parce que tu nous as permis de vivre la victoire, tu nous la donnes. Merci aussi parce que tu nous donnes des ordres. Merci parce que tu comprends les problèmes que nous avons. Tu comprends nos problèmes de convoitise, tu comprends notre faiblesse. Mais tu pars à cette faiblesse si nous voulons bien de ton aide. Gloire te soit rendue. Et rends-nous, Seigneur, tel que tu veux que nous soyons. Par Jésus-Christ. Amen.